Bien, alors je commence en rappelant rapidement le point que j'avais essayé de mettre en évidence au moment de conclure il y a 15 jours et qui concernait ce que je pourrais appeler dans la pensée du social, dans la façon de penser ce qu'est la société. Une surestimation chez certains penseurs, mais aussi dans la pensée courante, du regard frontal, du face-à-face ou du vis-à-vis, par extension, je vais y revenir ce soir, de la rencontre. Donc beaucoup de gens pensent, nous sommes assez enclins à penser que ces qualités-là, le regard frontal, le face-à-face, le vis-à-vis, la rencontre serait ce qui qualifie particulièrement le social. Voilà. Or, ma suggestion, disons, pour le moment, c'est que ça n'est peut-être pas l'instance sociale qui attend spécifiquement cette qualité. En fait, je pense qu'une des thèses de cette recherche qui a commencé l'année dernière, qui se poursuit cette année, qui peut-être se conclura ou en tout cas se poursuivra l'année prochaine, c'est que si la société existe, ça n'est pas pour que les humains se rencontrent. Voilà. Ou ça n'est pas pour que les humains s'affrontent, front à front, vis-à-vis, face à face, etc. Et que peut-être notre pensée, si le mot convient du social, est obérée dans une certaine mesure par une confusion entre l'instance sociale à proprement parler et les autres instances de la vie humaine dont nous avons parlé l'an dernier en suivant les propositions d'Hannah Arendt, ces autres instances étant, et même peut-être ces instances premières, de la vie humaine étant ce qu'elle appelait Hannah Arendt la vie privée et la vie publique. Non pas la vie sociale, mais la vie publique. Alors peut-être que dans nos esprits contemporains, ces instances se confondent et peut-être qu'un signe, ou un signe de cette confusion serait justement cette espèce de valorisation sur laquelle évidemment je vais revenir, disons, de la valeur de la rencontre dans ce que nous appelons la société. Au fond, j'ai tendance à penser, en tout cas c'est une hypothèse de travail au moins pour ce séminaire, qu'il y a dans nos esprits assez présent, apparemment spontanément, quelque chose comme un mélange des valeurs. C'est-à-dire que nous mélangeons, je serais assez pour dire ça, au moins pour réfléchir, nous avons tendance à mélanger les valeurs, non pas à les spécifier, non pas à les répartir, mais à les mélanger et à appeler social quelque chose qui mêle, par conséquent, des valeurs dont le principe historique, en tout cas, est la vie privée, et d'autres dont le principe historique est la vie publique. Donc, par exemple, pour être clair, l'affrontement chez Hannah Arendt, c'est, j'allais presque dire, un privilège de la vie publique, pas de la vie sociale. Et donc je me suis accroché à ça, à cette lecture de Hannah Arendt l'année dernière. Au fond, je la poursuis cette année, même si je ne parle plus explicitement des textes de Arendt, je reste sur cette hypothèse. Et donc, j'avais conclu, je pense que j'avais conclu la séance il y a 15 jours en disant que peut-être ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était penser ce qui n'est pas rencontre et qui serait, alors on a eu plusieurs formules, le côtoiement, les pas de côté, les passages de côté, et que c'est l'hypothèse de travail, en tout cas pour cette année. Il faudrait chercher à penser ça, j'insiste encore une fois, au moins par hypothèse, le plus positivement possible. Voilà. Quelles peuvent être les valeurs ou la valeur du côtoiement, du passage par côté, des passages à côté, des passages tout court. Voilà. Alors, cette espèce de petit programme, je nous le propose pour ce soir et probablement encore pour la prochaine séance. Donc, j'en suis là. Je cherche à penser positivement le côtoiement. Et je me dis que, pour suivre le raisonnement entamé dans les séances précédentes, je me dis que penser positivement le côtoiement, c'est penser positivement le fait de ne pas se rencontrer. Qu'il y a quelque chose de positif au fait de ne pas se rencontrer. Alors j'avais bien dit il y a 15 jours que dire ça n'est pas dire il n'y a aucune valeur positive à la rencontre. C'est dire que le lieu d'une rencontre, ce n'est pas le social, c'est autre chose. Bon, en tout cas, ça serait la tâche pour ce soir, commencer à penser positivement le fait de ne pas se rencontrer. Chercher quelles peuvent bien être les qualités de ce fait-là, ne pas se rencontrer. Et pour cela, j'y reviens, nous ne pouvons pas ne pas nous heurter à toute une tradition de pensée qui fait de la rencontre une valeur absolue, voire une valeur suprême. Alors, cette tradition, vous le savez, elle concerne à l'évidence quelqu'un comme Marc Augé, dans son livre, son fameux livre sur les non-lieux, qui a des propos explicites sur cette question, hein, qui appelle lieu ce qui permet la rencontre, hein, et qui disqualifie comme non-lieu ce qui ne la permet pas. Donc, il est clair que chez Marc Augé, cette tradition anthropologique qui fait de la rencontre une valeur, elle est présente. Mais peut-être cette tradition de pensée qui fait de la valeur, de la rencontre, pardon, une valeur essentielle, elle est peut-être également plus indirectement présente chez un philosophe comme Lévinas. Ou en tout cas chez quelques-uns de ses lecteurs. Il faudrait faire le travail, mais ça serait une hypothèse de lecture pour ce qui concerne donc Lévinas, qui par ailleurs, j'y reviendrai peut-être, parce que quelque part les choses sont liées, ou il faudrait que j'arrive à les lier, à un discours critique sur la notion de forme, qui fait de la forme quelque chose qu'il faut savoir ou pouvoir traverser pour aller à l'essentiel, hein, qui peut-être confond, ou tend à confondre, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste, mais les notions d'apparence et les notions de forme. Peut-être que tout ça c'est lié, hein, le fait de survaloriser la rencontre et le fait de dévaloriser, en tout cas, une certaine compréhension de la notion de forme. Hein. J'y reviendrai, c'est un petit peu l'ambiance conceptuelle que je cherche à interroger par ailleurs. Ce que je vais critiquer, ce n'est pas qu'on fasse de la rencontre de l'autre une valeur à certains égards. Ce que je vais critiquer, c'est qu'on n'admette pas de limiter la pertinence de cette valeur. C'est que, par conséquent, on la tienne pour un idéal par rapport à quoi on devrait se sentir en tout lieu obligé. C'est-à-dire qu'un lieu serait un lieu dans la mesure, serait vraiment un lieu, ou un espace serait vraiment un espace, si vous voulez, par extension, mais un lieu, pour rester dans la problématique de Marc Augé, serait vraiment un lieu pour autant que, il permet la rencontre, c'est-à-dire que la notion de lieu est clairement, je crois, chez lui, obligée par la notion de rencontre. C'est ça que je critique. Hein, c'est ça que je critique. Bon. Alors, je suis allé chercher pour ce soir, chez quelqu'un que vous attendez peut-être pas que je nomme, alors, je sais pas, une théorie ou une philosophie de la rencontre que je trouve très intéressante. Et ce quelqu'un, c'est Alain Badiou. Je vais citer un passage de son livre Conditions, qui était paru en 92, au chapitre Qu'est-ce que l'amour? Alors, Badiou, dans ce chapitre-là de son livre Conditions, fait de la rencontre un événement. C'est l'un des événements, c'est une catégorie chez Badiou, hein, l'événement. La rencontre est un des événements, mais c'est un événement dans le seul champ de l'amour. Autrement dit, ce n'est pas comme ça que parle Badiou, mais si vous voulez, pour que je ne sois pas tout de suite trop, je sais pas comment dire, trop complexe, trop. Le destin, si ce mot convient, d'une rencontre, c'est l'amour. Et peut-être je suis en train de sous-entendre, ça j'extrapole par rapport à la lettre du texte de Badiou, ce que je suis en train de sous-entendre, c'est que si la rencontre est essentiellement amoureuse, son espace, je l'ai d'ailleurs dit déjà l'année dernière, son espace, ça n'est pas le social, c'est l'espace privé. Hein. C'est-à-dire que le devenir d'une rencontre, c'est d'aller vers, c'est de se trouver un espace privé où elle va pouvoir se tenir véritablement. Voilà. Bon, en tout cas, Badiou définit la rencontre comme un événement dans le champ et dans le seul champ de l'amour. La dualité amoureuse, explique Badiou, la dualité amoureuse implique, je ne le cite pas littéralement, mais là c'est bien son vocabulaire, qu'il y a deux positions. C'est comme ça qu'il parle, il y a deux positions. Là je le cite, ça va peut-être vous faire sourire, il y a deux positions, il y a une position et une autre position. Dans une rencontre, il y a une position et une autre position, hein, ou la position d'un autre. Aucune des deux positions, ajoute Badiou, ne peut faire l'expérience de l'autre. Aucune des deux ne peut partager l'expérience ou la supposée expérience de l'autre. C'est pourquoi il insiste sur le fait qu'il y a, dans le champ en question, deux positions. Aucune des deux ne pouvant faire l'expérience de l'autre. L'événement qui est possible dans le champ de l'amour n'est pas de même type, c'est un mot de Badiou, que celui qui peut advenir en politique. Il y a un événement qui advient dans le champ de l'amour, qui est une rencontre, et une autre sorte ou un autre type d'événement dans le champ politique. L'événement rencontre qui peut advenir dans le champ de l'amour est pour Badiou, pardon, je le cite, ce supplément hasardeux à la situation qu'on appelle une rencontre. Ce supplément hasardeux à la situation qu'on appelle une rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? C'est quand, dans une situation où il y a une dualité, il y a un supplément hasardeux qui fait événement, qui advient, mais c'est un supplément et il est hasardeux. La rencontre est par conséquent à la fois supplémentaire et hasardeuse. Badiou ajoute, je le cite, c'est page 263 dans son livre Conditions, bien entendu, l'événement rencontre n'est que dans la forme de sa disparition, de son éclipse. Alors, je laisse le bien entendu de côté, qui est assez souverain, parce que justement, c'est peut-être pas si bien entendu que ça. Mais disons, ça serait, c'est ce qui m'intéresse en fait dans le texte de Badiou. C'est une phrase comme celle-ci. Hein, l'événement rencontre n'est que dans la forme de sa disparition, de son éclipse. C'est-à-dire qu'une rencontre, ça ne dure pas. Voilà. Si j'ose dire, encore une fois, et lui-même ne parle pas comme ça, c'est fait pour, si c'est fait pour, s'éclipser, ne pas durer. Voilà. On peut tenter de faire durer la rencontre, mais elle ne dure pas. Bien entendu, l'événement rencontre n'est que dans la forme de sa disparition, de son éclipse. Je poursuis la lecture. Il n'est fixé que par une nomination. Et cette nomination est une déclaration, la déclaration d'amour. Ce qui fixe une rencontre, qui par essence est dans le registre de l'éclipse et de la disparition, ce qui la fixe, c'est le fait qu'avec elle advient une déclaration qui la fixe, qui la nomme, la déclaration d'amour. Voilà. Mais, je poursuis la lecture, tôt ou tard, cette déclaration, je t'aime, ou, dit Badiou, s'accolent deux pronoms sans aucunement faire un de deux. Donc il étudie la petite phrase « je t'aime », le « je » et le « tu », enfin et le « toi » plus exactement. Donc dans cette déclaration qui fixe la rencontre, qui tente à fixer la rencontre, s'accolent deux pronoms qui ne font pas un de deux, donc on est toujours dans la dualité, et c'est cohérent avec l'idée que jamais dans l'amour on ne fait l'expérience de l'autre. Donc, tôt ou tard, la déclaration qui fixe la rencontre, la déclaration « je t'aime » où s'accolent deux pronoms sans aucunement faire un de deux, s'atteste dans un « je ne te comprends pas ». Voilà. Qu'il faut entendre et respecter à la lettre, dit Badiou, il fait vérité de la disjonction. Voilà. Tôt ou tard, la déclaration où s'accolent deux pronoms sans aucunement faire un de deux s'atteste dans un « je ne te comprends pas » qu'il faut entendre et respecter à la lettre. Il fait vérité de la disjonction, ce qui n'a lieu qu'en amour, ajoute Badiou. Voilà. Ça n'a lieu qu'en amour. Cette capacité à faire vérité de la disjonction, c'est-à-dire finalement, on pourrait dire, le « je ne te comprends pas » pourrait sembler extrêmement négatif, mais en réalité, il fait la part de l'autre. Voilà. « Je t'aime et je ne te comprends pas. Je t'aime et tout en t'aimant, je ne te comprends pas. » Ça fait la part de l'autre et dans une certaine mesure, ça maintient la dualité. Alors je trouve ça très intéressant et si vous voulez, je retiens cette analyse comme finalement me donnant, en tout cas à moi, l'essence de ce que c'est qu'une rencontre. Donc je trouve cette analyse juste, je trouve juste, je vous propose de trouver juste cette analyse de Badiou pour cette raison qu'elle ne manque pas de dire que même dans la rencontre, même dans l'amour, le duel et le duel de la dualité persiste et qu'il n'y a pas unité. Voilà. Il n'y a pas unité. Il faut souligner ce point parce que toute une idéologie de la rencontre promeut en fait par ce biais, le biais de la promotion de la notion de rencontre, sinon l'état fusionnel, du moins la ressemblance. Ce qu'on partage, ce serait dans l'idéologie de la rencontre que je critique, ce qu'on partage, alors je mets le mot partage exprès entre nous, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment ou l'autre on en discute, tant aujourd'hui il est prégnant, le mot partage, via les réseaux, etc. Il faudra bien qu'on parle de ça à un moment ou l'autre. Bon. Donc je commence à mettre en place de quoi analyser ça. Ce qu'on partage, ou ce qui est entendu dans l'usage le plus courant du vocable partage ou de la notion de partage, c'est, j'ai mis ça sur mes notes, c'est ou ce serait ce qu'il y a de même entre nous. Ce qu'il y a de même, pas, il ne faut pas prendre le de même comme en français quand on dit de même ceci, de même cela. Le même qui est entre nous, ça serait ça qu'on partagerait. Et la rencontre, ça serait trouver le même que soit chez l'autre. Voilà. Et autrement dit, pas trouver l'autre. Voilà. Alors je trouve intéressante l'analyse de Badiou parce qu'il me semble qu'elle prend à contre-pied cette théorie ou cette idéologie de la rencontre. Elle maintient que même là, dans la rencontre amoureuse, la dualité est maintenue. Je t'aime, je ne te comprends pas. Il n'y a pas, je traduis dans mon langage, il n'y a pas unité. Voilà. Donc, il faut souligner cette absence d'unité que Badiou lit à la rencontre, parce que donc toute une idéologie de la rencontre promeut en fait, c'est précisément l'ouverture du social à un genre d'État qui se déploie hypocritement dans l'uniformisation des pratiques et des situations, c'est-à-dire on cherche le même, On cherche, sous la notion de partage, on cherche le même et pas l'autre, et pas le duel, et pas la dualité. On cherche l'unité, par conséquent. C'est justement cette recherche du même, ou cette quête du même, qui, depuis que j'ai commencé ce séminaire l'année dernière, dès la première séance, me semble être caractéristique de ce qui suscite non pas l'espace, mais l'étendue. L'étendue, c'est l'extension du même. Voilà. J'ai essayé de dire ça dès la première séance, d'une certaine manière, l'année dernière. Donc, un monde qui voudrait partager au sens que je viens de critiquer, c'est un monde qui se voue à s'étendre, qui se voue à l'étendue et qui a peu de chances de faire espace. Alors, je peux, sur cette base, de mon côté, regretter que Badiou, non pas sépare le champ politique du champ amoureux, comme il le fait par ailleurs dans toute sa philosophie, mais qu'il sépare le champ amoureux et le champ politique comme il le fait, c'est-à-dire, de mon point de vue, qu'il limite l'expérience de la dualité au champ amoureux. Donc personnellement, j'ai essayé de travailler, c'est une publication à venir, que vous ne pouvez pas trouver encore, mais essayer de travailler pour étendre la non-unité, si vous voulez, la dualité, la diversité, le pas pareil, etc., au champ politique, et par conséquent, à faire une critique de la notion d'unité en politique, et substituer, c'est ce que j'essaye de faire, à la notion d'unité, la notion d'union. Ce n'est pas du tout la même chose, il me semble, parce que pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait au moins deux. Alors que l'unité, c'est la réduction à un. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait également penser la politique comme un champ d'union, et non pas comme un lieu où pourrait, par exemple, se définir l'universel. Hein, l'universel, littéralement, ça veut dire tourner vers l'un, uni, versel. Donc versus, c'est le tourner vers l'un. Alors, j'entamerais bien, si je pouvais, une discussion avec Badiou ou avec les textes de Badiou pour peut-être chercher à penser aussi le champ politique comme n'étant pas voué à prononcer l'universel. Voilà. Donc ça, c'est un sujet compliqué qui n'est peut-être pas le sujet le plus immédiat du séminaire, mais que je ne peux pas, au passage, ne pas signaler. Je cherche à penser autant que possible la politique comme union, et je pense que peut-être la philosophie de Badiou sur la question de la politique ou sur le thème de la politique ne se défait pas assez de la perspective de l'unité. Donc, ça serait peut-être un point sur lequel j'aurais des questions, si vous voulez, à poser au texte de Badiou que je viens de citer. Donc peut-être je peux regretter un peu ça, que Badiou ne réserve la dualité ou la non-unité au champ de l'amour, et ne l'étende pas au champ de la politique, pour autant que je l'ai bien lu. Ce que je ne regrette pas, en revanche, c'est de pouvoir penser, à l'aide de formules comme celle de Badiou que je viens de vous lire, c'est de pouvoir penser que la rencontre ne saurait être un phénomène banal. Ce que je lis à l'évidence dans le texte de Badiou, c'est que la rencontre n'est pas banale. Voilà. La déclaration « je t'aime », elle n'est pas destinée au premier passant venu, ni à quiconque, bien entendu. Donc ce n'est pas un phénomène banal. C'est ça qui m'intéresse dans la philosophie de la rencontre que j'ai trouvée chez Badiou, c'est que la rencontre ne peut pas être un phénomène banal. Et s'il a raison, dans son analyse, ce que je tends à penser, vouloir la rencontre partout possible, c'est en fait l'exclure de son événementialité particulière. C'est l'exclure de son événementialité. quoi qu'on dise couramment, on n'organise pas une rencontre. Il arrive qu'elle ait lieu, ça n'est pas du tout la même chose. Il arrive qu'une rencontre ait lieu, mais je ne sais pas si, bien sûr, dans le langage banal, on peut dire ça, je vais organiser une rencontre. Mais si on organise une rencontre, il y a des chances pour qu'elle n'ait pas lieu, ou si elle a lieu, c'est en surcroît de ce qui aura été organisé. Donc je ne pense pas qu'on organise, si on se met à réfléchir, vraiment une rencontre. Il arrive, en revanche, qu'elle ait lieu, c'est son événementialité. Mais si la rencontre est un événement, comme le propose Badiou, alors ça n'est pas un projet, ça n'est pas l'effet d'une intention, c'est plutôt ce qui surprend l'un et l'autre, projet et intention, c'est ce qui surprend donc l'une et l'autre de ces deux attitudes, l'attitude du projet et l'attitude intentionnelle. Ça surprend, c'est-à-dire c'est une surprise. Cette surprise, en soi, elle n'est pas sociale. Je ne crois pas que la surprise qu'est la rencontre, en soi, soit sociale. Elle est plutôt, me semble-t-il, ce qui suspend, voire ce qui, à la limite, déprécie la socialité. Je veux dire, elle déprécie parce que, à partir du moment où s'est effectuée pour moi, où a eu lieu pour moi une rencontre, peut-être qu'elle s'est passée dans un endroit que par ailleurs on peut dire social, mais à partir du moment où elle s'est passée, d'une certaine manière, la société me gêne. Et au fond, deux personnes qui se sont rencontrées, leur tendance, ça va être de s'isoler à deux pour fonder une vie privée, pour fonder quelque chose qui est de l'ordre d'une vie privée. Donc au fond, l'essence de la rencontre, c'est d'échapper à la société. Voilà. C'est un événement, surprise, qui ne s'organise pas, qui n'est pas un projet, qui n'est pas intentionnel, et dont le sens, si ce mot convient, est finalement d'échapper à la société. Je m'interromps une toute petite seconde pour mettre la lumière dans l'espace où je me trouve, car j'ai du mal à lire mes notes. Alors, admettons cette analyse et revenons donc à notre question. De quoi est faite la socialité si elle n'est pas faite de rencontres au sens strict du terme que je viens d'essayer de dire? Eh bien, je dirais que s'il s'agit de traiter positivement de la socialité, ce qui est l'hypothèse pour cette année, je ne cesse de le répéter, je dirais que la socialité, si elle n'est pas faite de rencontres, elle est faite de déplacements en tous sens, elle est faite de passages. C'est l'expérience du passant qui donne la clé, me semble-t-il, de la vie sociale, qui donne la clé de la vie sociale sur son versant le plus positif. Et pour être plus précis quant à cette vie sociale, je dirais ceci, la société est d'autant plus développée et s'éprouve d'autant plus, ou bien encore, elle est d'autant plus prégnante dans l'expérience de la vie humaine que s'augmente la possibilité d'y être dans la société comme passant. Je reprends cette formule, si vous voulez, parce que même si j'ai des toutes petites vignettes en lieu et place de vos visages, je crois voir ou comprendre qu'il faut que je répète un peu. Voilà. Alors je reprends ma formule. Je viens de dire la société est peut-être d'autant plus développée, ou plutôt elle s'éprouve d'autant plus, c'est-à-dire j'éprouve d'autant plus la dimension sociale de mon être. Ou bien la société est d'autant plus prégnante dans l'expérience de la vie humaine que s'augmente la possibilité d'y être dans la vie, dans l'endroit social, comme passant. La question est de savoir si cette épreuve, cette expérience ou cette prégnance, pardon, la question est de savoir si de cette épreuve, de cette expérience ou de cette prégnance de la société, nous pouvons retirer quelque vivacité, fierté ou bonheur. Je pense que c'est ça la question. Parce qu'on a tendance à opposer le passé les uns à côté des autres, ce qui ne serait pas bien, et le se rencontrer qui serait bien. Voilà. Le se rencontrer, ça serait du bonheur. Et le pas se rencontrer, le passer les uns à côté des autres, ça serait malheureux. Ça serait malheureux qu'on se côtoie. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un effort intellectuel, au moins ça, pour poser la question dans l'autre sens, pour regarder le problème de l'autre côté et se dire, y a-t-il quelque vivacité, fierté ou bonheur à passer et à pouvoir passer les uns à côté des autres? C'est-à-dire, comment dire ça? Ne pas vivre le côtoiement la tête basse, quoi. Dans une sorte de regret ou de honte. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre ça fièrement, avec bonheur? De façon vivace. Si donc, sur cette base, j'essaye d'énoncer les qualités de l'expérience du passage, si je me propose, conformément à la méthode que je ne cesse de suggérer, de qualifier cette expérience du côtoiement et du passage de manière non péjorative, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Eh bien, je vais dire que passer, on en a un peu parlé en discussion il y a 15 jours, je vais dire que passer, ça peut être longer, croiser, à la limite frôler, mais pas jouer des coudes, encore moins heurter ni être heurté. Longer, croiser, peut-être frôler, mais pas jouer des coudes, heurter ou être heurté. Tout passage, sauf à être refusé, suppose une liberté de passage. Je pense que c'est une phrase importante pour moi, ce que je viens de dire là. Je pense qu'on ne peut pas penser le passage sans penser ipso facto à la liberté de passer. Voilà. Et qu'en fait, ce qui nous embête, ce qui nous fait mal vivre, ou mal sentir, ou mal éprouver, ou nous donner une mauvaise expérience du passage, c'est que les lieux qu'on appelle des lieux de passage, en réalité, sont des lieux où on n'est pas libre de passer. Voilà. Et donc, il faut réfléchir à ça. Voilà. Tout passage, sauf à être refusé, suppose une liberté de passage. Deux catégories de notions, par conséquent, au moins deux, contredisent au passage, compris comme telle, liberté de passer, comme une liberté. Voilà. Deux catégories de notions contredisent à la liberté des passages. La première implique les barrières, les barrages et autres dispositifs capables de faire obstacle, parmi lesquels, je crois qu'il faudra qu'on y revienne, les péages et les caisses, dont parlait déjà Flusser. Voilà. Donc, là, c'est évident. Ce qui heurte les passages, ce qui diminue la liberté dans le passage, c'est tout ce qui fait obstacle, parmi quoi il y a les péages et les caisses, c'est-à-dire... Je reviendrai sur cette affaire, pas immédiatement, mais je la pose pour plus tard dans le raisonnement, c'est-à-dire évidemment des opérations qui sont d'ordre économique. Peut-être que le problème de la société, c'est pas la société comme lieu de passage, c'est la façon dont les lieux qui pourraient être des lieux de passage sont obérés économiquement. Ce qu'on voit à l'existence d'un certain nombre de dispositifs qui entravent, pour des raisons économiques, les passages à proprement parler. Donc c'est une première catégorie de notions et de pratiques qui contredisent à la liberté des passages. La deuxième série de notions et de catégories est peut-être plus subtile, si vous voulez, concerne ou concernerait la mise au pas ou les mises au pas et les mises en file. Sorte d'expérience qu'on avait déjà vu apparaître il y a 15 jours quand on lisait un petit peu Wilhelm Flusser. Voilà. Mais j'en tirerai pas les mêmes conséquences que lui. La mise au pas, la mise en file. Donc les péages, les barrières, les obstacles, etc. Et les mises en file et les mises au pas. Alors je vais revenir au film que j'évoquais il y a 15 jours, Les Hommes le Dimanche, qui est le film princeps de ma réflexion sur ces questions. Dans Les Hommes le Dimanche, on voit très bien la différence qui touche à l'idée qu'on peut se faire d'une société nombreuse et d'une foule. En fait, je vais vous proposer de distinguer entre une foule et une masse. La foule, c'est alerte, et la masse, c'est une foule mise au pas ou mise en file. Voilà. Et j'ai vu ça, si vous voulez, ou cette idée m'est venue, à la vue de ce film dont je vous ai déjà parlé, Les Hommes le Dimanche. Des plans dans ce film montrent la société berlinoise, la foule berlinoise, alerte. Voilà, alerte. Voilà. Va et vient d'hommes et de femmes qui passent et se croisent en tous sens. Animation excitante de la ville. À d'autres moments, dans d'autres plans, c'est une composition qui paraît. La foule se compose, se rassemble, voilà, où les uns et les autres marchent dans le même sens en file. Il y a quelques plans, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs états, autrement dit, de la foule, alerte, les gens passent les uns à côté des autres, enfin, c'est vif, ça va en tous sens, et dans d'autres plans, la foule se compose, se coordonne, s'attend à marcher dans le même sens en file. Et la foule est alors mobilisée par un ordre et en un ordre qui canalise sa vivacité pour finalement la paralyser, l'immobiliser et la tenir, écoutez le mot, en meeting. Un meeting, si je parle anglais, je crois que ça veut dire rencontre. To meet, voilà. Le meeting, voilà. La perspective du meeting, c'est en fait la mobilisation de la foule en masse, hein, la transformation de la foule en masse, qui en fait immobilise la dimension alerte de cette foule, la fait marcher en file, etc., dans un seul sens. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus de passage. Voilà. À ce moment-là, il n'y a plus de passage, il y a une espèce de coordination, de composition, qui change l'ambiance, c'est le moins que je puisse dire. Je peux donc, au vu de ces divers plans dans le film, je peux souligner à rebours que là où il y a passage, en principe, il n'y a pas synchronie. Quelque chose comme un décalage, un déboîtement, un rythme, autrement dit, est possible. Voilà. Décalage, déboîtement, rythme. Autrement dit, si vous préférez, quelque chose comme des pas de côté. Je joue en fait, il faudra que j'explicite ça prochainement, avec des textes que j'ai à l'esprit qui sont de Benjamin, hein, et qui parlent à propos de la notion de rythme, de la façon dont je vais coller plusieurs textes de Benjamin, c'est pas du tout littéral, mais disons dont le poète Baudelaire se déhanche dans la ville. Hein, c'est-à-dire, il y a des déboîtements, il y a des décalages, il y a du rythme. Voilà. Benjamin parle aussi des déhanchements dans la poésie même de Baudelaire, j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que si on cherche des formes alertes pour la société qui créent ou qui participent plus exactement que créer, qui participe à l'existence d'une société, disons, alerte, vivace, où on peut passer en tous sens, hein, où il y a une liberté de passage, etc., mais pas de barrière, enfin bon. Ces expériences-là, décalage, déboîtement, rythme, sont peut-être des qualités esthétiques auxquelles il faudra qu'on s'arrête. Voilà. J'espère que ce qui apparaît peu à peu dans l'analyse que je suis en train de développer, c'est que le problème, ça n'est pas la société en soi, c'est où ça serait dans le social, tout ce qui dévalorise, et pour commencer, ce qui interdit physiquement, matériellement, par toute une série d'encombrements, le rythme, les pas de côté, les à côté. Voilà. J'analyserai davantage par la suite ce que j'appelle ici pas de côté, et dont nous avons déjà commencé à discuter. Pour l'instant, je vais m'arrêter, si vous voulez bien, et sans jeu de mots, aux encombrements. Il faudra bien que nous nous expliquions dans ce séminaire la raison d'être des encombrements qui empêchent les passages, qui, comment dire ça, dérythment dans une certaine mesure l'espace social et du coup le déspatialise. Voilà. Il faudra bien qu'on s'explique pourquoi la société ou le milieu social est encombré. Je peux désigner la raison de manière très générale en rappelant que l'espace désencombré par excellence, dans la logique de ce séminaire, c'est l'espace public. Si le social se distingue de l'espace public, c'est qu'il n'a pas le caractère de l'espace public, c'est-à-dire l'une de ses raisons d'être, ce sont des... Alors, je ne sais pas comment dire ça, des encombrements inévitables, peut-être. Peut-être faudra-t-il qu'on pense le caractère au moins relativement inévitable, ou peut-être, je pourrais dire autrement, il faudrait bien qu'on pense l'utilité des encombrements. Voilà. En tout cas, je peux considérer, et c'est à mon avis dans l'esprit du propos d'Anna Arendt qui a commencé toute cette réflexion l'année dernière, je peux considérer que le champ a priori de la société, c'est l'occupation. Voilà. Être social, c'est être dans des occupations. Voilà. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de société qui ne nous occupe pas. Voilà. La question, c'est que cette occupation ne soit pas à l'excès. Voilà. Et qu'il reste de la liberté, ou qu'il y ait de la liberté qui s'ajointe à ces occupations. Toute la question est que les occupations pour lesquelles, sans doute, la société est fondée, la vie sociale est fondée, toute la question est que ces occupations ne prennent pas toute la place, et que donc, elles en laissent, au moins à la vie privée d'une part, à la vie publique, d'autre part. C'est pourquoi je ne pense pas la vie sociale comme une fin en soi, ni même comme une fin majeure. Toute la logique, si j'ose dire, de ce séminaire, c'est de proposer la société comme une utilité, mais pas comme la fin majeure de l'existence humaine. Parce que si on fait ça, alors il n'y a plus de place, ou il n'y a plus de place que pour les occupations sociales, et il n'y a plus de place pour les autres instances de la vie privée d'un côté, publique de l'autre. Que la vie sociale, que la société ne soit pas la fin majeure des existences humaines, qu'elle soit un pôle seulement des existences humaines, c'est, je crois, justement, ce dont témoigne la possibilité d'en traverser le champ et d'y faire des allées et venues. La société se tient dans la fonction, allez, tant pis pour ce mot que je lâche sans avoir trop réfléchi, se tient, j'allais dire, j'hésite aussi à dire, elle se tient à sa place, enfin, elle se tient au mieux, voilà, si elle n'excède pas sa propre raison d'être ou ses propres limites, voilà, si elle les excède, alors elle empiète sur la vie privée d'un côté et sur la vie publique de l'autre, hein, mais si elle n'empiète pas sur la vie publique et, si la, et la vie privée de part et d'autre, si elle se tient dans les limites de son utilité, eh bien ça se remarquerait au fait que dans son champ, on peut aller et venir, on peut passer et non pas être arrêté dans son passage. Hein. C'est une espèce de ce qui arrête, ce qui tient ou ce qui met la société hors de ses limites, la vie sociale hors de ses limites, c'est quelque chose qui tient à l'instance, à une instance d'arrêt. Voilà. Alors, un critère pour penser tout ça plus concrètement, ça pourrait être l'état du mobilier urbain. Je vais essayer de concrétiser ce que je viens de dire de façon confuse et abstraite, je le crains, en évoquant le mobilier urbain. Mobilier, meuble, en principe, c'est mobile. C'est la même étymologie, hein. Le mobile, le mobilier, le meuble. En principe, le mobilier urbain, l'ameublement urbain, je vais dire tout à l'heure l'aménagement urbain, le mobilier, le meuble urbain, en principe, c'est mobile. Ou, pour prolonger encore une remarque que j'ai trouvée dans un texte de Flusser, alors pas ceux que je lisais il y a 15 jours, mais d'autres, peu importe, le mobilier urbain, tout ce qui aménage le champ social, ça devrait être fait d'objets qui ne font pas obstacle. Hein, Flusser jouait sur ces rapprochements de mots. Objet, obstacle. Voilà. Et lui disait que tout objet fait obstacle. Ce que précisément je voudrais essayer de montrer que non. Il y a peut-être des objets qui permettent les passages et d'autres qui font obstacle au passage. Il va falloir faire la distinction entre. Au sein du mobilier urbain et des ameublements urbains. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes de ce point de vue? Voilà. Mobilier, meuble, en principe, c'est mobile, et ça ne devrait pas faire obstacle. Où en sommes-nous, de fait, aujourd'hui, de ce point de vue? Alors, imaginons qu'à Paris, je prenne le tram, un tram. Voilà. Le tram, c'est par excellence un objet meuble et mobile, puisque ça se déplace dans la ville, grâce à quoi, grâce auquel, je peux traverser l'espace urbain, et qui, en tant que tel, objet mobile grâce auquel je peux traverser l'espace urbain, a pour cet espace-là une dimension structurante. Et je pense que c'est le cas. Je peux y revenir, si vous voulez, en discussion. Par exemple, je pense que le tracé, par exemple, du tram B, un tram que j'ai particulièrement fréquenté et étudié, je trouve que ce tracé, ce tram-là, structure, fait de l'espace, autrement dit, dans des endroits qui n'étaient pas spacieux avant que le tram soit construit. Donc, de ce point de vue, c'est un objet mobile qui, je vais dire, pour parler vite, m'intéresse. Bon. Donc, c'est un objet meuble et mobile par excellence, donc il ne fait pas obstacle. Hein. Il a plutôt une dimension structurante. Je peux, évidemment, grâce au tram, aller et venir. Donc, il est du côté de la qualité sociale dont j'essaye de parler depuis le début de cette soirée. Je peux, grâce au tram, aller et venir dans la ville. Et d'ailleurs, des trams dans le film « Les hommes le dimanche », vous en verrez, hein, si vous regardez le film. Bon. Mais voici que sur ma route, en tram, ou pendant mon transport, un certain nombre d'objets qui devraient être, me semble-t-il, transparents, font obstacle à ma vue. C'est par exemple l'affichette collée sur la vitre à hauteur de mes yeux, qui devrait me, puisque c'est sur la vitre, hein, je devrais pouvoir traverser par mon regard la vitre en question et donc avoir accès à la perception de l'espace social. Mais j'ai une affichette collée sur la vitre qui me barre littéralement, qui fait obstacle à ma vue. C'est un détail, mais c'est drôlement prégnant dans le tram parisien. Ça peut être aussi une publicité qui, à la moindre halte du tram, vient à son tour barrer mon regard, qui oppose son opacité à la vitre de l'abribus, et tout ça est responsable d'une situation qui fait finalement contradiction à la qualité sociale de l'ensemble. Voilà. Il y va de tout un assaut fait au développement du champ perceptif. Il y a toute une série d'objets dans ce qui pourrait être un espace social qui vient faire assaut au développement de mon champ perceptif de passant. Voilà. Cet assaut, je viens, par les exemples que j'ai donnés, de le situer dans le registre de la vue, mais il pourrait aussi bien concerner l'oreille, l'ouïe. L'urbanité moderne est globalement bruyante, visuellement et d'un point de vue sonore. Elle est globalement concernée par une augmentation de l'intensité perceptive. Alors, je dis l'urbanité moderne ou contemporaine est globalement concernée par une augmentation de l'intensité perceptive. Je veux dire par là, peut-être tout simplement, que en peu de place, il y a beaucoup, voire trop de choses. Voilà. C'est extrêmement intense, c'est extrêmement bruyant, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore. La question est de savoir s'il existe une autre intensification de la perception que celle que je viens d'évoquer et de critiquer. La grande ville peut-elle ne pas fatiguer la vie et la perception? La grande ville peut-elle ne pas encombrer la vie et la perception? La grande ville est-elle compatible avec ces qualités que Nietzsche disait dans la quatrième partie de l'avant-propos qu'il a rédigé pour la deuxième édition de son Gai Savoir? Est-ce que la grande ville est compatible avec ces qualités que Nietzsche associait dans le texte que je viens de vous dire à une certaine guérison? Voilà. Il dit en substance qu'il est guéri, que ça va mieux. Voilà. Ouais, donc je flirte avec ce texte de Nietzsche, si vous voulez. Hein. Est-ce que de ce qui encombre la perception, ce qui fait assaut au champ perceptif, est-ce qu'il l'intensifie? Est-ce qu'on peut s'en guérir? Alors non pas se guérir en n'ayant plus rien devant les yeux ou les oreilles, mais en ayant quelque chose qui n'encombre pas, qui ne fait pas obstacle, etc. Alors, quelles sont les qualités qui sont associées par Nietzsche à une certaine guérison? Alors, je vous donne, ce n'est pas une citation littérale, hein, ironie, légèreté, fugacité, désinvolture, et aussi, ajoute le texte, artificialité. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, je dis ça pour évidemment ouvrir une discussion. Imaginez donc que nous ayons, au lieu des affichettes bruyantes, des encombrements, enfin, tout ce que j'ai évoqué aussi clairement, j'espère, mais en même temps aussi rapidement que je pouvais, est-ce qu'on peut imaginer des mobiliers urbains qui seraient finalement dotés de ces qualités que manifeste un esprit guéri, au sens de Nietzsche, ironie, légèreté, fugacité, désinvolture, artificialité. Je mets peut-être artificialité de côté parce que ça demanderait une explication avec le texte de Nietzsche. Ironie, légèreté, fugacité, désinvolture. Ces qualités-là. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'en fait la ville moderne de ces qualités? Alors peut-être faudra-t-il aussi, pour trouver la voie cherchée, la voie que je cherche, ne pas considérer toute cette affaire avec trop de sérieux. Peut-être faudra-t-il laisser de côté un certain esprit scientifique, je dirais lourdement scientifique, hein, qui se prend au sérieux. Peut-être faudra-t-il laisser de côté un esprit scientifique, tout un esprit, ou un certain esprit scientifique plutôt, et lui préférer, alors je ne dis pas laisser de côté toute science, hein, une façon d'être lourd dans la science, ou pour la science d'être lourd. Je ne l'ai pas mis sur mes notes immédiatement, mais j'ai en tête des exemples d'écritures scientifiques qui sont légères, ironiques, fugaces, désinvoltes, etc. Bon. Alors, peut-être faut-il quand même imaginer de laisser de côté un certain esprit scientifique et lui préférer, c'était en tout cas un conseil de Nietzsche encore, un esprit plus artiste. Peut-être qu'il faut aborder les questions urbaines dans un esprit moins scientifique et un peu plus artiste. Je dirais, par traduction, que c'est un conseil d'esprit nietzschéen. Voilà. Peut-être faudra-t-il apprendre à regarder sans trop de profondeur. Voilà. Qui sont, la critique de la profondeur est aussi présente dans le texte de Nietzsche auquel je suis en train de penser. Mon ami Daniel Payot, qui en fait m'a fourni la conclusion que je suis en train de faire de toute cette séance, dans un livre qu'il m'a fait parvenir cette semaine, tout simplement, et que j'ai lu pour une bonne part, me fournit donc la conclusion de cette séance, et il évoque l'idée nietzschéenne de nouveau, je cite Daniel Payot, d'approuver les apparences pour ce qu'elles sont. Une diversité infinie de phénomènes, une inépuisable prolifération de formes, de couleurs, de mouvements, une ère sans borne d'apparition immédiate, dénuée de toute attention, de tout calcul, de toute dissimulation, de toute supercherie. Je vais vous relire ce passage qui est de Daniel Payot, mais Daniel, à cet endroit, commente le passage de Nietzsche auquel je viens de me référer. Et donc, il évoque, si vous voulez, comment dire, peut-être illustrer ou concrétiser les qualités de l'esprit qui a retrouvé la santé, hein, qui est redevenu alerte, l'esprit guéri, ironie, légèreté, fugacité, désinvolture, etc. Qu'évidemment, je pense, j'imagine, enfin, j'espère que c'est clair que j'associerai à la vivacité que j'essaye de caractériser. Donc, Daniel Payot écrit, pour résumer, si vous voulez, la pensée de Nietzsche, qu'il s'agit ou qu'il s'agirait d'approuver les apparences, de pouvoir approuver les apparences pour ce qu'elles sont, une diversité infinie de phénomènes, une inépuisable prolifération de formes, de couleurs, de mouvements, une ère sans borne d'apparition immédiate, dénuée de toute attention, de tout calcul, de toute dissimulation, de toute supercherie. Le livre où c'est écrit s'intitule « Retour d'écho » et c'est page 105. Alors, cette remarque de Daniel Payot me donne la clé que je cherchais au moment où m'est venue à l'esprit, dans la préparation de cette séance, la thématique du mobilier et par extension de l'aménagement urbain. Le problème que nous avons, que nous aurions avec la société, ne tient-il pas à un excès d'intention et de calcul, une ère sans borne d'apparition immédiate dénuée de toute intention, de tout calcul, de toute dissimulation, de toute supercherie. Est-ce que le problème, autrement dit, du mobilier urbain, de l'ameublement urbain, de l'aménagement urbain, ça n'est pas d'être lourd, excessivement lourd d'intention et de calcul. Est-ce que le problème ne tient pas à la façon aussi dont intention et calcul sont, en la circonstance, dissimulés? Je reprends la phrase de Daniel. Une ère sans borne d'apparition immédiate, dénuée de toute intention, de tout calcul, de toute dissimulation, de toute supercherie. Est-ce que ce n'est pas ça le problème, finalement, qui fait que les espaces sociaux ne sont pas assez des espaces et trop des étendues encombrées? Est-ce que ça n'est pas lié au fait, justement, que ce qui s'y construit dans ces pseudo-espaces, ce sont des objets trop intentionnels, trop calculés, et ou des objets dont les intentions et les calculs sont, j'allais dire, en plus, en outre, dissimulés. Je crois, et je m'arrêterai là pour ce soir, que nous avons à interroger, que nous allons avoir à interroger quelque chose comme une perversion des apparences dans la société contemporaine. Une perversion des apparences. Je dis ça, c'est l'ambiance nietzschéenne de ce que je viens de lire. Au fond, ce que Nietzsche dit, quand il dit ça va mieux, je ne suis plus fatigué, je suis guéri, etc., c'est que les apparences sont pas alourdies d'intention, de calcul, qui plus est, dissimulées. Elles se libèrent et elles se reçoivent comme telles. Alors peut-être que dans la suite, je substituerai au mot apparence, qui a peut-être une certaine ambiguïté philosophiquement parlant, le simple mot de paraître. Voilà. Nous aurons à interroger, en tout cas, dans la suite de ce séminaire, ce que j'appelle pour le moment une perversion des apparences, ou bien, si vous voulez, je vais le dire comme ça, je m'arrêterai là-dessus, nous aurons à interroger un paraître pervers des objets qui peuplent le monde, si ce mot convient, social. Voilà. C'est-à-dire des objets qui semblent être là pour servir et qui, en réalité, occupent l'espace et par conséquent le nid comme tel. Voilà. Et est-ce qu'on peut penser à une façon de meubler le champ social de telle sorte que justement il ne soit pas encombré d'apparence perverse. Voilà. En tout cas, c'est ça que je chercherai, j'allais dire que je chercherai à chercher dans la suite de ce séminaire. Voilà. Je m'en tiens là pour ce soir. Même si c'est pas trop trop long. Même si ça n'a pas occupé un temps infini. J'essayais de faire ça ce soir et la prochaine fois, c'est-à-dire de laisser le quand même pas mal de temps à la discussion parce que je me disais que c'était utile.
Voilà. Oui, on est à mi-parcours.
Ouais. je pense que la façon dont tu poses la question ou dont tu fais ta remarque me signale qu'il faudra que je reprenne ce que j'ai dit là, qui était certainement beaucoup trop rapide. En fait, j'essayais de prendre, alors est-ce que je peux dire avec ironie, le mot meeting, parce que précisément on appelle meeting, c'est-à-dire se rencontrer, quelque chose qui n'est pas une rencontre. Et donc ça signale, j'ai dit le mot perverti à la toute fin de mon exposé, c'est un des éléments par quoi se signale, en tout cas à moi, comment dire ça, la perversion du langage avec lequel on nomme les phénomènes sociaux. Voilà. Donc, les meetings, si meeting veut dire rencontre, ou si to meet veut dire se rencontrer, un meeting n'est pas un lieu de rencontre. Ou alors, il l'est, comment dire, par surprise, pour tel et tel qui vont se rencontrer là au sens de Badiou, mais pour quitter le meeting, pour aller faire autre chose que ce pourquoi le meeting a lieu. Voilà. Donc je pense que le mot meeting est un mot, disons, problématique en la circonstance, pas adéquat. Voilà. Et ensuite, dans quelque chose que tu as dit, enfin en tout cas j'ai noté en t'écoutant, mais j'ai plus tout à fait le contexte, dans un meeting, dans ce qu'on appelle un meeting, on n'est pas les uns vis-à-vis des autres. On est les uns vis-à-vis d'une scène, les uns et les autres, pardon, vis-à-vis d'une scène qui est organisée, etc. Et donc, il n'y a pas de vis-à-vis dans un meeting. Donc, ce n'est pas non plus un endroit politique au sens d'Hannah Arendt. Voilà. C'est l'organisation d'une scène qui accapare perversement, peut-être, l'idée même de politique ou d'espace public. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ce que je voulais ce soir, c'était mettre un doute dans l'utilisation de tout ce vocabulaire. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Pardon ? En fait, le meeting, alors faudrait faire l'histoire de ça. Moi, je ne suis pas historien, je suis philosophe, donc j'espère toujours qu'il y a un historien qui embrayera, si j'ose dire, sur telle ou telle suggestion. Ça, j'aimerais beaucoup. Peut-être que ça existe et que je ne connais pas l'histoire du meeting. Mais j'ai tendance à penser, quand je me retourne vers les années 30 en Europe, que le meeting, c'est l'organisation de la masse, c'est la production de la masse. Et je trouve que le film Les Hommes le Dimanche, je veux dire, au-delà des intentions des cinéastes, le fait est, le film comme il est, comme on peut encore le voir, le montre très très bien. Hein, puisqu'il y a... C'est furtif, mais il montre que dans un endroit de la ville, le dimanche, il n'y a pas que des gens qui passent les uns à côté des autres, qui mènent leur vie librement. Il y a aussi l'organisation d'une masse, les prémices de l'organisation de la masse. Le défilé, la concordance des gens dans le même lieu, etc. Voilà. Je ne sais pas, certainement qu'il y a un autre sens au mot meeting, je dirais, pour aller vite, un sens de gauche, mais il faudrait étudier ça, il faudrait étudier. Et l'histoire de la pratique et l'histoire du mot.
Oui, mais donc tu le ranges dans quelle catégorie, là, si on peut dire, public, privé ou social, hein. Alors, c'est du social, mais en même temps, c'est du social.
Ça serait du social
Ça serait du côtoiement.
en tant que le social peut absorber le politique, par exemple. Absorber le politique. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même énormément, malgré nous, sans peut-être y penser assez, dans une situation où, en réalité, les questions sociales ont absorbé les questions politiques. Voilà. On fait pas beaucoup de politique par les temps qui courent. Voilà. On pense comme politique des questions qui sont des questions sociales. Voilà. Et on est dans une situation historique. Donc je propose cette formule, hein, mais tout ça, c'est pour réfléchir, c'est des hypothèses de recherche. En fait, le meeting serait un des cas dans lequel on pourrait se demander s'il n'y a pas là une opération d'absorption du politique par le social.
En vous écoutant avec tout ce que vous la citation de Daniel Payot mais aussi vous avoir écouté avant parler de Sullivan en fait je me suis posé la question de la présence de l'architecture justement dans la ville je me suis posé que la ville ce soit ce lieu du côtoiement du passage et je pensais alors plus spécifiquement avec la citation de Payot à l'architecture du centre Pompidou qui coïncide avec le moment où les débuts, enfin le moment où, pas tout à fait les moments, je n'ai pas encore bien fait mon étude et ma recherche, mais en tout cas postmoderne, avec des choses qui se revendiquaient d'une postmodernité. Et justement, il me semble que quelque chose dans cette architecture-là aimerait se penser comme une apparition, en tout cas comme quelque chose qui vient au regard, qui dénote en fait, qui apparaît. Alors après, est-ce que ça accapare le regard? Est-ce que ça l'occupe un temps ou est-ce que c'est simplement quelque chose, parce qu'il y a aussi une certaine légèreté peut-être. Enfin, il y a quelque chose qui se cherche, en tout cas, il me semble, dans cette architecture-là, qui serait de l'ordre de la dénotation, enfin, en tout cas de l'apparition, quoi. Il y a ce mot-là, d'une vivacité, presque. Mais aussi, d'une certaine manière, ah, mais alors, c'est encore autre chose, et puis c'est peut-être une question à laquelle je devrais essayer de répondre toute seule, la question de l'habit.
La question 2.
Le vêtement, en fait, la manière dont on s'habille, dans ce lieu-là, hein, dans la ville, la manière dont on se vêtit en ville, ben voilà, c'est pas très ordonné ce que j'ai dit, mais j'ai pensé ce que vous avez dit depuis le début. Justement, il y aurait quelque chose, on voudrait faire de l'espace social, enfin du lieu social, de la société une étendue. Et il y a quand même, semble-t-il, dans certaines architectures et puis aussi dans certaines manières de s'habiller, en fait, de se vêtir en tant que passant ou personne qui se côtoie. Quelque chose qui cherche une certaine démarcation. Alors ça joue certainement sur l'apparence, mais vous l'avez dit vous-même, c'est un mot compliqué, mais en tout cas sur la manière dont on peut paraître.
Oui.
Se paraître les uns aux autres. Voilà, donc je n'ai pas vraiment de questions. Mais si, quand même, on avait une, notamment plus sur l'architecture, en fait.
Oui.
La manière dont l'architecture peut participer à faire vivre, à vivifier l'espace
C'est évidemment la question, c'est évidemment toute la question. C'est même la seule question que je cherche à, non pas à élaborer, parce qu'il n'y a pas besoin de moi pour l'élaborer, cette question, mais je tourne autour pour suggérer des façons de l'examiner. C'est-à-dire, c'est évidemment la question, qu'est-ce que l'architecture, par extension le design, peuvent à... comment vous avez dit à l'instant voilà. Qu'est-ce qu'elles peuvent à la vivacité? Qu'est-ce qu'elles font à la vivacité? C'est-à-dire, et ça me semble être corollaire, enfin, ça serait une thèse du séminaire d'installer petit à petit ce corollaire, pas seulement comme un corollaire, comme une juxtaposition de thèses, mais comme quelque chose qui serait argumenté. Vivifier, qu'est-ce que l'architecture peut à la vivacité ou à la vivification, enfin je ne sais pas, il faut inventer le mot, est-ce qu'elle fait de l'espace? Est-ce qu'elle fait de l'espace social ou est-ce qu'au contraire elle le prend? Est-ce qu'elle l'occupe? C'est une question critique. On est allé se promener avec Adrien, c'était la semaine dernière, je crois bien, et on met côte à côte porte de... j'oublie le nom de cette porte, c'est pas porte de la Villette, c'est celle d'avant. Pardon ?
Porte des Lilas ?
Non, après. Entre la porte de Lilas et la porte... bon, enfin, là où il y a à la fois l'architecture de Portes en Parc, la cité de la musique, et l'architecture de Jean Nouvel, la Philharmonie de Lorraine. Bon, eh ben, je peux parler en mon nom pour dire ce que j'estime qu'il y a là, mais disons, le séminaire vise à permettre à tous ceux ou toutes celles qui l'écouteraient d'aller dans des endroits comme ça et de se poser la question. Est-ce qu'il y a une architecture qui ouvre l'espace et une autre qui l'occupe? Voilà. Et à quoi on pourrait ensuite, deuxième temps, se demander à quoi il apparaît, donc c'est bien une question de parution, hein, que celle-ci, cette architecture, elle ouvre l'espace, elle vivifie, et cette autre, au contraire, elle assomme, elle occupe, elle impose, etc. Elle a donc d'autres qualités au sens objectif du mot. C'est pareil pour le centre Pompidou. Je peux dire des choses en mon nom, dire que ce que j'estime qu'est le centre Pompidou. Mais peut-être c'est mieux qu'on se pose la question et qu'en effet on se demande qu'est-ce que c'est que cette chose des éléments de réflexion qui seraient par hypothèse dans le séminaire. Donc par exemple, est-ce que le centre Pompidou, ça prend le regard ou est-ce que ça l'ouvre? Voilà. Moi, je ne serais pas pour dire hein, que le centre Pompidou est post-moderne, etc. Bon, bien sûr, il est construit à l'époque qu'on commence à dire post-moderne, etc. Mais post-moderne n'est pas pour moi une notion, fiable. Clair, stable, bon, je le mettrais plutôt du côté de la modernité pour ce qui me concerne, mais en tout cas je vous signale que le centre Pompidou est l'un des bâtiments dans lequel à l'intérieur il y a le plus grand volume disponible. Le hall, ça n'est qu'un hall, le centre Pompidou, dans sa, dans son organisation architecturale stricte. Après il a été meublé par une administration qui a peut-être occupé cet espace. Mais en soi, c'est un bâtiment, il y a c'est l'un des bâtiments qui a la plus grande portée, sans piliers. Moi, donc, par conséquent, vous entendez, je le mets plutôt du côté de ce qui... fait de l'espace. Hein. Je précise que, je l'ai dit l'année dernière, pour qu'il y ait espace, il faut qu'il y ait au moins un point et un autre point. Hein. Il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Il faut qu'il y ait quelque chose, mais que ce quelque chose ne prenne pas on va dire, aujourd'hui, on pourrait dire, ne prennent pas la vue, n'occupent pas l'espace. L'occupation de l'espace, c'est la fin de la spatialité de l'espace. Voilà. Alors, est-ce que le Centre Pompidou occupe l'espace ou est-ce qu'il en ouvre? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que la Philharmonie de Paris, ça occupe l'espace ou est-ce que ça en ouvre? Est-ce que l'architecture de Portes en Parc, ça occupe l'espace ou est-ce que ça en ouvre? Etc., etc. Voilà. Et puis, dans votre remarque, il y avait aussi quelque chose qui concernait le vêtement. Alors ça, ça va être totale improvisation, ce que je vais dire sur le vêtement à l'instant. Mais en vous écoutant, j'ai pensé à ceci. Dans Les Hommes le dimanche, c'est drôle quand même. Hein, l'un des protagonistes, il rentre chez lui et il se change. Voilà. C'est comme s'il y avait les vêtements pour chez soi et les vêtements pour dehors. Je n'imagine pas qu'au fond, cette scène, enfin, entre guillemets, enfin, cette séquence soit restée. En tout cas, le changement d'habit est un thème, est l'un des thèmes du film. L'un des thèmes que le film observe. Voilà. On ne s'habille pas pareil dans telle circonstance et dans telle autre circonstance. Je me souviens, moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, du temps où, dans le métro, aux heures sociales, on voyait des gens en habit de travail, hein, les ouvriers qui allaient, par exemple, à Boulogne chez Renault travailler, ils avaient leur bleu de travail dans le métro, etc. On pouvait, comment dire, si la société, chose sur laquelle je reviendrai par la suite, parce que c'est la thèse initiale d'Anna Arendt, hein, c'est que la société s'est développée pour, dit-elle, libérer le travail, émanciper le travail, ce qui ne veut pas dire le rendre libre au sens ordinaire du mot, elle veut dire par là l'émanciper, c'est le sortir des endroits où il avait lieu archaïquement. Hein. Donc, on a cessé de travailler dans l'oïkos, disons, familial, et puis on est allé travailler hors de l'espace de la vie privée. Voilà. Donc, je pense que la société, enfin, s'il y a de la société, c'est parce que dans l'histoire de l'humanité, le travail s'est émancipé de sa dimension familiale, pour aller vite. Voilà. Eh bien, jusqu'à un certain temps, en tout cas de la vie sociale, on peut typer, si le mot convient, les gens en fonction de leurs habits. Aujourd'hui, c'est pas si vieux, il y a une espèce de neutralisation du vêtement, hein, c'est-à-dire que vous soyez au bleu de travail de l'ouvrier, pouvait s'opposer le costume trois pièces du patron d'entreprise ou je ne sais pas ou une façon de s'habiller du professeur etc. On est peut-être dans une phase de l'extension de la socialité. Donc j'ai parlé ce soir de confusion des valeurs, de confusion des instances. Bah, peut-être que le vêtement, le sort du vêtement serait une façon pour nous de repérer que ce que j'appelle des pôles sont non pas des pôles ne sont pas des pôles mais sont confondus, voilà. Et une façon de le repérer est peut-être liée à la façon de se vêtir. Ça marche dans tous les sens, hein. Ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous tombez, comme on disait autrefois, vos habits sociaux. Voilà. Il y a toute une littérature et je veux dire le fonctionnaire qui rentre chez lui ôte sa cravate, etc. Est-ce que nous vivons comme ça? Et si nous ne vivons pas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Sur ce que c'est que la société pour nous, son extension, sa façon peut-être de prendre sur l'espace-temps alors, privé d'un côté, public de l'autre. La réponse est oui. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez trouver ça. Il faudrait que je cherche la référence et que précise et que je vous la donne. Mais il y a une conférence de l'architecte Jean-Philippe Vassal qui a été faite à Strasbourg. Peut-être si vous tapez sur votre moteur de recherche Vassal Strasbourg, vous tomberez sur cette conférence. Et il parle très très bien de son architecture, donc il m'intéresse moi beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que justement, il y a un traitement de l'espace social ou du champ social pour qu'il y ait espace dans ce travail d'architecte-là. Donc, il raconte dans cette conférence qu'à un moment donné, donc, il a été convié par la municipalité de Bordeaux la municipalité voulait faire quelque chose, je ne sais pas si c'est réhabiliter, si c'est quel mot, mais enfin, faire quelque chose pour une place à Bordeaux et confie le travail à l'agence de Lacaton et Vassal. Donc ils vont à Bordeaux, ils étudient, ils travaillent, etc. Et finalement, leur projet, entre guillemets, c'est de dire au maire de Bordeaux que le mieux, c'est de rien faire. Voilà. Peut-être toiletter un petit peu, mais... voilà. Et si jamais il y a une tendance dans ce travail, entre guillemets, ça serait plutôt d'enlever quelques petites choses qui seraient en trop. Voilà. Et donc, non sans humour, Jean-Philippe Vassal raconte que c'est assez classe de la part de la mairie de Bordeaux qui a considéré que c'était bien un travail d'architecte et qui a rémunéré l'agence pour ce projet minimum. Voilà. Je pourrais vous donner un autre exemple qui est celui alors que j'ai connu, je veux dire, de près, parce que c'est pas que j'y ai collaboré, mais enfin j'y suis allé pendant que c'était en train de se mettre en place, de se travailler, de se réfléchir. C'est tout un travail de signalétique qui a été fait par Eudy Bord pour l'université de Strasbourg et pour la ville de Strasbourg en réalité, hein, qui consistait, puisque l'université allait regrouper ces différents morceaux en une seule université, à unifier la signalétique. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a fait l'équipe, finalement, c'est pas une signalétique unique, c'est une signalétique faisant l'union des... Je trouve ça très très intéressant. Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là, et d'ailleurs je l'ai dit, la question de la signalétique, c'est pas seulement de savoir où mettre des signes, c'est aussi de savoir où ne pas en mettre. Où est-ce qu'éventuellement il faut en enlever. C'est un des problèmes de la RATP, d'ailleurs, par exemple, ou de la SNCF. Que peut-être, d'un certain point de vue, il y a trop de signifiants. Mais même si vous réfléchissez à ce que c'est que l'écriture d'une affiche, ou même à un logo, où il y aurait écrit Université de Strasbourg, quel espacement vous mettez entre les lettres ? Il ne s'agit pas simplement de mettre des lettres côte à côte pour que ça fasse un mot. Il faut aussi se demander quel écart entre les lettres, donc les blancs. C'est capital dans la signalétique. Voilà, je pense à des choses comme ça. Après, si vous permettez, dans la façon dont vous m'avez posé la question, j'ai noté faire des objets qui provoquent le passage. Tout ça tient toujours, je l'ai dit plusieurs fois, à pas grand-chose dans le langage, un petit déplacement de mots, et je pense que c'est très important. Moi, je ne dirais pas provoquer le passage. C'est-à-dire qu'un passage provoqué, c'est peut-être plus un passage. Je ne sais pas, en tout cas, je ne prends pas le verbe sans réticence. Je dirais plutôt des objets qui permettent le passage. Qui l'autorise. C'est pas tout à fait la même chose que le. Parce qu'on pourrait dire un couloir qui organise l'écoulement d'une foule, couloir de métro, qui organise l'écoulement d'une foule, en fait d'une masse, hein, puisqu'elle est canalisée, elle provoque d'une certaine manière un passage, mais pas ce passage que nous sommes en train d'essayer de faire valoir. Donc je dirais, oui, autoriser, permettre. Ou même tout simplement laisser le passage. Quand il y a eu la grande grève des transports publics en fin 2019, et que nous avons dû, en tout cas moi j'ai dû me déplacer à pied pour un certain nombre de rendez-vous. Un peu professionnel que j'avais, etc. Donc bon, il fallait marcher. J'ai été, je pense qu'une grande partie de ce que j'ai dit ce soir, empiriquement, vient de là, vient de ce moment-là, de l'expérience. Je n'en revenais pas de voir combien les rues parisiennes que je ne pouvais pas ne pas emprunter étaient encombrées. Voilà. D'étalages, de choses. Et qui rendait l'expérience de la ville, pas douloureuse, ça serait excessif de dire douloureuse, mais pour reprendre les mots qui sont chez Nietzsche, fatigante, voilà, pas gaie, et pas seulement un seul quartier.
Est-ce qu'on peut, en fait, je me pose la question de la distinction entre être consciencieux et être intentionnel. Enfin, mais, est-ce qu'on peut être consciencieux, est-ce qu'on peut être soigneux, est-ce qu'on peut soigner quelque chose sans tomber dans l'excès d'intention?
Alors, j'espère bien que oui.
Oui, j'espère bien que oui. Et j'entends des. En fait, j'entends des réponses concrètes dans ce que tu as dit tout à l'heure, même, mais je trouve ça quand même. Oui, alors, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai envie peut-être que tu développes au sujet de l'intentionnalité et l'impression qu'il y a une façon dans les contre-exemples que tu prends. Dans les contre-exemples que tu prends, de présupposer ou même de manipuler les intentions des personnes, des autres. C'est-à-dire être intentionnel, être calculateur, c'est non seulement être intentionnel, mais prendre la place des autres intentions.
Oui.
Les intentions des autres.
Oui.
Et donc, donc en fait, ceci pour en fait, circonscrire même le problème de l'excès d'intention.
Alors, je vais dire deux choses. Ça va pas te satisfaire et ça va pas te suffire, mais je vais quand même dire les deux choses. La première, c'est, j'allais dire. toute philosophie mise à part, toute position philosophique, si finalement ça existe, des positions philosophiques, enfin, tout questionnement philosophique mis à part, je suis bien obligé, et nous devrions nous obliger les uns les autres, peut-être plus que nous ne le faisons en ce moment, à nous poser ce genre de questions, l'excès d'intention, je veux dire... Je viens de constater que France Télévisions venait de refaire son, pas son site, mais l'accès à son site. Avec cette phrase quand même qui mérite le détour, pour accéder à tous vos contenus, veuillez vous inscrire. Voilà. Donc désormais, il faut s'inscrire, et c'est-à-dire donner une adresse qui est associé à une adresse IP, enfin qui permet d'être repéré. Hein. Et évidemment, ça sert à, je pourrais prendre le mot d'époque, ça sert à gérer, alors je veux dire la relation client ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va me prendre, moi, dans leurs intentions à eux. C'est-à-dire après, on va me proposer des contenus qui ressemblent à ceux que j'ai déjà fréquentés, donc je serai dans la logique du même que j'essayais de dénoncer au passage tout à l'heure, etc. etc. Bon, les exemples, hélas, ne manquent pas. Je veux dire, le traçage qui est en train de se développer à très très grande échelle, c'est évidemment être pris dans une intentionnalité calculatrice. Je pense. Donc il faut bien qu'on s'interroge... Il faut bien qu'on n'hésite pas à interroger la notion d'intention, quelle que soit la noblesse que, en particulier, le courant phénoménologique et dans l'histoire de la philosophie a pu donner à cette notion-là. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui passer à côté d'une interrogation sur la valeur des intentions, des calculs intentionnels, etc., ou ce que j'ai commencé à appeler ce soir, je compte y revenir, perversion. Je pense que le pervers, c'est celui qui enferme toujours l'autre dans l'intention qu'il a quant à l'autre. Voilà. Alors, est-ce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, si c'est un monde, ou la société dans laquelle nous sommes en train de vivre, est-ce que ça n'est pas justement une société dans laquelle le pervers au sens que je viens de dire, la perversion au sens que je viens de dire se développe? Et donc je crois qu'il faut qu'on ne peut pas ne pas interroger ça. Alors ça c'est une chose que je peux dire en réponse à ta remarque. Et alors l'autre chose, c'est bon, apparemment un autre sujet, mais ça va y revenir. C'est que ça fait belle lurette que au départ, pour interroger des façons de faire qui n'étaient pas liées du tout à ce que je viens de dire, pour la bonne et simple raison que ce que je viens de dire, ça n'existait tout simplement pas à ce moment-là, au moment où je me posais les questions que je vais dire. Mais ça fait très longtemps que je me demande si... comment dire, alors je ne sais pas comment dire ça, pour faire en général, est-ce que je peux oser dire quelque chose comme pour faire quelque chose de bien si c'est possible, de pas trop mal, voilà. Est-ce que la méthode, s'il y en a une, le chemin, Odos, hein, de méthode, le chemin pour aller vers quelque chose qui nous ferait du bien au bout du compte, qui nous ferait pas de mal au bout du compte. Voilà. Est-ce que la méthode pour ça suppose qu'on ait des intentions et éventuellement de bonnes intentions? Et d'ailleurs, est-ce qu'on rend compte de ce qui s'est fait dans le monde en supposant que tout ce qui s'est fait dans le monde vient d'intentions voilà. Est-ce que le cinéma... c'est un usage inévitablement intentionnel des caméras et des appareils d'enregistrement? Est-ce que la photographie, c'est un usage inévitablement intentionnel de l'appareil photographique? Est-ce que la peinture, c'est inévitablement, ça se tient inévitablement pour l'essentiel dans l'intention de peindre? Voilà. Moi, je pense que le travail, en tout cas, tout un travail auquel on pourrait associer le nom ou le mot d'art, au moins un certain moment, passe par des opérations non intentionnelles. Voilà. Les leçons de Paul Klee au Bauhaus sont claires sur ce point. Voilà. C'est ça qu'il cherchait à apprendre à ses élèves, à dessiner sans intention. Toi-même me parlais cette semaine, je ne sais pas si mon exemple va être bon, mais tu me dis que un architecte comme Portzamparc, qui dessine maintenant à la tablette numérique, en commençant ses tracés sur des photographies. Hein, c'est-à-dire, finalement, c'est pas lui qui décide du premier tracé sur son dessin, c'est quelque chose qui est déjà là. Qui ne vient pas de lui. Voilà. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait qui sont intéressantes, qui sont de qualité et qui ne viennent pas de nous, qui ne commencent pas par venir de nous, c'est-à-dire pour lesquelles l'intention n'est pas déterminante. Je dis bien déterminante. Elle peut exister, mais elle n'est pas déterminante.
Voilà. Et qui pour autant est un travail consciencieux, soigné,
oui.
Attentif.
Oui. Alors, consciencieux, oui. Troisièmement, alors, reprenons cet adjectif consciencieux qui évidemment renvoie à conscience. Donc moi, je soutiens que la conscience n'est jamais aussi vive qu'au moment où, comme on dit en français, elle se prend, c'est-à-dire elle s'éveille. Le moment où il m'apparaît quelque chose, pas où j'ai eu envie de voir quelque chose, j'ai voulu voir quelque chose, pas le moment où j'ai dirigé, bon, le moment où il m'arrive quelque chose à la vue, le moment où il m'advient quelque chose visiblement, c'est une ouverture de conscience comme jamais. C'est-à-dire que la conscience, c'est peut-être quelque chose dont l'ampleur, l'intensité, pour reprendre un de mes mots de ce soir, est liée au fait d'un ne pas prévoir.
Un ne pas prévoir, et donc c'est comme ça que tu définis négativement l'intention. Au contraire, en fait. Mais je veux dire, parce que...
Ce que je veux dire, parce qu'inversement, on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'un appareil photo fasse une photo tout seul. Il faut bien qu'un photographe l'emmène quelque part, le pose quelque part, etc. Donc il y a bien une intention, etc. Ce que je mets en discussion, c'est l'idée que l'essentiel se tiendrait dans l'intention. Que l'intention serait déterminante. Qu'elle participe à l'effectuation de quelque chose, ok. Mais qu'elle soit inévitablement la résidence de l'essentiel, bon, qui fait que, moi, je ne sais pas, j'étais en bagarre avec les étudiants quand ils me disaient qu'ils avaient fait quelque chose, et au lieu de me le montrer, ils me parlaient de leurs intentions. Alors j'avais qu'une envie, c'est de leur dire taisez-vous et montrez, et laissez-moi regarder. Voilà. Et après, on parlera. Voilà. Et c'est pas sûr que l'intention... le discours intentionnel donne la clé de la chose qu'on a faite. On pourrait même montrer que très souvent, ça c'était le devenir des choses qu'on a fait avec des intentions qui sont toujours stratégiques échappent finalement aux intentions de leurs auteurs. Donc je ne fais pas de l'intention la clé. Pardon ?
Non, j'allais dire, je vois ce dont tu parles, et puis je vois aussi, pas seulement auprès des étudiants, mais même quand on a affaire à un travail de designer, dans des appels à projets, etc., souvent la justification, et même la justification attendue, de la part des émetteurs de la demande, c'est une justification intentionnelle. quatre mois, il y a une plus grande partie qui échappe que celui à qui quelque chose échappe soit attentif à ce qui lui échappe et essaye de l'écouter et de le travailler.
Bon, y a deux choses pour moi qui sont pas, enfin que je peux pas traiter sur le même plan. Mais j'allais dire évidemment, mais non, c'est pas du tout évident justement. Que si on poursuit la réflexion qu'on est en train de commencer à mettre en marche là, dans ce qu'on discute ce soir, si on poursuivait, on serait obligé d'affronter une question ou une position critique quant à la technique, parce qu'il y a peut-être des techniques qu'il vaut mieux ne pas laisser échapper, qu'il vaut mieux qu'elles demeurent intentionnelles. Bon, pour en parler très, très clairement, il vaut mieux que une centrale nucléaire n'échappe pas au calcul intentionnel. Voilà. Quand elle échappe au calcul intentionnel, c'est la catastrophe. Bon. Mais alors du coup, on pourrait dire, bah, vous voyez bien, monsieur Huyck, vous avez tort, il faut des intentions, sinon c'est trop grave. Mais je pourrais aussi répondre que le problème, c'est qu'en effet, on est en train de se rendre prisonnier de techniques intentionnelles, mais ça n'épuise pas la pensée de la technique, de dire, il y a des techniques... qu'il serait trop dangereux de laisser s'échapper. Mais en revanche, il y a des techniques pour lesquelles l'accident est possible. Hein, accident, accident en latin, ça veut dire « il arrive », c'est un verbe impersonnel. Voilà. Il peut arriver quelque chose. Et donc, à mon avis, ça serait un critère de critique ou de sélection des techniques. La technique que je mets en œuvre, peut-il lui arriver quelque chose? L'objet que je vais mettre au monde, ou à la mise au monde duquel je vais participer, peut-il lui arriver quelque chose? S'il peut lui arriver quelque chose, c'est donc un objet qui peut vivre, avec lequel nous pouvons vivre, sans calcul, sans... etc. Bon. Donc, il faudrait qu'on poursuive la réflexion dans ce sens-là. Il y a peut-être des techniques qui nous obligent au calcul et d'autres non. Et dans ce moment-là, s'il y a une diversité dans la technique, lesquelles on choisit. D'autre part, par rapport à ce que tu disais, donc c'est un autre plan sur, pour essayer d'enfoncer mon clou, quoi, la philosophie à coup de marteau, hein, quand même, j'insiste. Est-ce qu'on peut être généreux par intention? Voilà. Est-ce que la générosité, c'est pas une des conduites humaines qui se déploie sans qu'on ait l'intention de l'être généreux? Voilà. J'ai l'impression que la réponse, c'est qu'en effet, la générosité, ça ne se fonde pas sur l'intention d'être généreux. C'est un fait, la générosité. Et c'est un fait qui est... sur ma route, il m'arrive quelqu'un par rapport à qui, au fond, j'interromps ma route généreusement. Voilà. Donc tout le discours qui enferme la conduite humaine dans l'intentionnalité, moi je le valide pas sans, comme vous voyez, sans réserve. Des techniques qui pourraient être accidentées et au sein desquelles on pourrait être généreux, ben voilà, ça mérite un peu de recherche.
Faire revenir sur l'exemple que tu prenais tout à l'heure, Pierre-Damien, d'appris au passage, hein, pour répondre à quelqu'un, de cette petite phrase qu'il y a sur le site de France Télévisions, c'est ça?
Oui.
Donc là, il y a quelque chose de... Il y a une espèce de contradiction, parce qu'en même temps, on dit votre contenu, et en même temps, il n'est pas accessible sans passer par l'étape d'inscription, donc de renseigner un certain nombre d'informations. C'est ça que tu pointes. Je pensais en fait à la tendance à... Je m'entends en écho, je ne sais pas d'où ça vient là, mais il y a peut-être un micro qui se calme. Je pensais à la tendance à dire vous, votre... voilà, oui, votre contenu, votre... je me demandais si cette façon de parler, de parler pour...
C'est sûr que une phrase qui ne serait pas calculatrice, surchargée d'intention, ça ne serait pas pour accéder à tous vos contenus, ça serait pour accéder à tous nos contenus. Puisqu'en fait, les contenus, même juridiquement, ils sont la propriété de France Télévisions, et pas du tout de moi. Donc cette phrase... alors la question, c'est pourquoi elle existe, cette phrase-là, elle est tellement répandue aujourd'hui, hein, c'est... Bon, la phrase la moins perverse, ou une phrase moins perverse serait de dire pour accéder au contenu de France Télévisions, au contenu diffusé par France Télévisions, d'ailleurs le mot contenu, bon peu importe, on pourrait discuter aussi, mais bon, c'est pas cette phrase-là qui est là, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire quant à ce qui s'avance de social, c'est à cause de choses comme ça que j'ai commencé ce soir à lâcher le mot pervers, perversion, etc. Et je pense, alors je ne sais pas comment, évidemment j'ai préparé la suite de ce séminaire, mais par exemple la séance de ce soir, je l'ai refaite en grande partie dans la journée, je n'étais pas content de ce que j'avais préparé, enfin bon, on ne sait jamais, mais disons, mon projet à l'heure actuelle, c'est probablement de faire de la sixième, de la dernière séance de cette année, quelque chose là-dessus, parce que je suis en train de me rendre compte que c'est un problème enfin, particulier, spécifique, qui est que et qui peut-être m'obligera à repenser beaucoup de choses que j'ai dites moi-même concernant le design ou parce que j'ai pas assez pensé à ce qui est en train d'arriver, à mon avis, à savoir... La multiplication dans je veux dire l'espace social pour parler vite comme tout le monde, mais justement c'est pas un espace à cause de choses comme ça, d'entreprises pour lesquelles peut-être le bon mot est en effet perverse, des entreprises qui pervertissent. Donc j'ai parlé ce soir de la confusion privée, publique, sociale, la perversion de tout ça aussi, une façon de retourner les choses. Le pervers, c'est celui qui vous fait croire qu'il vous propose quelque chose de bien pour vous, alors qu'en réalité, c'est tout pour lui. Hein, voilà. Donc je me demande s'il ne se développe pas parmi nous des objets qui sont des... l'objet traditionnellement pensé par l'architecture et le design, ce sont des fonctions avec des enveloppes, des façades, ou des apparences, ou des parutions qui affranchissent la fonction, hein, dans la série Form Ever Follows Function, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de l'adéquation de la forme à la fonction. Etc. Mais ce qui est en train de nous arriver, c'est des objets complexes, au sens où je pense qu'il y a des fonctions dans les fonctions. Et donc, le traitement du paraître de ces objets-là, ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre... Il y a une apparence, qui est, même si on affranchit une des deux fonctions, par exemple, je peux affranchir un service sur le téléphone portable, mais ça enferme une fonction qui, elle, est pas affranchie et donc existe de façon perverse. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, on a affaire à des situations dans lesquelles sont emboîtées des fonctions. Voilà. Ben ça, c'est super compliqué. Et je pense, je le dis ce soir en discussion, voilà, c'est complètement décousu, mais je pense que c'est lié, enfin c'est ça que je voudrais arriver à penser et à critiquer, mais pas simplement à critiquer du point de vue intellectuel, à suggérer des voies de travail pour faire autre chose.
Bonjour Pierre Damien, merci encore pour cette séance très riche. J'ai beaucoup réfléchi et je me demande aussi quand même comme piste par rapport au. Ah, tu m'entends pas?
Si, si, j'entends.
Je parle en face, ça marche. La séance dernière, peut-être celle d'avant encore, tu nous avais parlé de la fluxeur et c'est vrai qu'en t'écoutant, je ne peux pas.
Qu'est-ce qui
dans ces espaces. Qu'est-ce qui n'est pas dans le calcul? Qu'est-ce qui n'est pas dans, dans l'intention, dans le calcul, justement dans ces expériences de passage, parce que bon, on a des téléphones dans les poches, on utilise des services gratuits qui ont des fonctions qui sont justement dans une autre apparence. Donc c'est vrai que puis, en repensant à l'impulseur, je me pose cette question de. Pas encore dans le calcul, dans l'expérience de passage de l'espace social. Donc déjà, je me dis que puis c'est déjà d'enlever le calcul, quoi. D'enlever le calcul, d'enlever peut-être dans l'expérience du passage le calcul. C'est-à-dire, justement, cette petite. Dont on a parlé de France Télévisions, c'est ça? L'inscription. Peut-être que je sais pas, la nouvelle application, la RATP, qui nous demande aussi de donner le niveau d'affluence dans le métro maintenant. Donc on doit dire, puis ça va quel le niveau d'affluence dans le métro. Et en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, on nous calcule, et puis on calcule beaucoup pour les machines. Effectivement quand même pour revivre aussi l'expérience sociale d'un point de vue formel et artistique que j'ai l'impression d'entendre dans ce que tu dis Pierre Damien, il faudrait déjà peut-être l'enlever quoi la part de calcul, ce qui n'est pas une mince affaire quoi.
En tout cas, moi, j'ai évidemment pas les réponses. De toute façon, quand on fait de la philosophie, moi, je ne crois pas, jamais, il y a longtemps que je ne pense plus que la philosophie soit le lieu des réponses. C'est le lieu où s'entretiennent des questions. Et après tout, il faut bien qu'on le fasse de temps en temps, entretenir les questions. C'est pas ça qui donne les réponses, bien entendu. Donc j'aurais pas les réponses. Hein. Mais ce que je peux peut-être faire, c'est aider à ce que des verbes qui ont l'air d'être négatifs, c'est pour ça que je ne cesse pas dans ce séminaire de dire il faut essayer de penser positivement, etc. Mais des verbes qui ont l'air d'être négatifs, comme enlever, passer à côté, en fait, ont peut-être quelque chose à quoi aujourd'hui. Nous serions avisés de penser ou d'essayer de penser positivement. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à côté de l'opération menée par, tu viens de citer la RATP, etc. Voilà.
Mais ça me semble pas suffisant.
Moi, je vais te dire, je vais te dire, je ne sais pas si je maintiendrai la formule que je vais dire, mais là, tout de suite, dans l'état où je suis, je dirais que peut-être, faut que je réfléchisse à ça, mais peut-être, au fond, ce que je suis en train de penser, c'est que il serait important que nous soyons capables de penser que nous ne demeurons pas dans le social, que la demeure de l'humanité, ça n'est pas le social. Que si l'humanité demeure quelque part, donc c'est au fond, c'est le projet de ce séminaire, de rappeler le caractère premier, primordial, principal de l'articulation privée-public. Voilà. Que l'humanité, alors, ça va contre toute une idéologie dominante, qui n'est pas vraiment une pensée, mais qui est quelque chose qui s'abat sur nous lourdement, il me semble, et qui, au fond, tend à. Alors, en ce moment particulièrement, je pense que la question se pose, enfin, devrait se poser. Voilà. Est-ce que nous demeurons dans le social, c'est-à-dire, est-ce que les espaces, enfin, le champ social, c'est là que demeure l'humanité? Oui, certainement, l'humanité contemporaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être un contemporain si on n'est pas socialisé. J'avais parlé dans la séance qui n'a pas eu lieu l'année dernière, qui existe juste en texte, hein, de l'immersion, des métaphores de l'immersion, etc., qui nous. Voilà. En même temps, à force d'être immergé, on pourrait être noyé, hein. L'immergé, c'est celui qui est sous l'eau. Donc c'est des métaphores incroyables, incroyables que évidemment, ceux d'entre nous qui s'en tirent bien, c'est pas ceux qui sont immergés, c'est ceux qui sont sur les plateformes. Mais les plateformes, c'est ce qui flotte sur l'eau, c'est ce qui est au-dessus de l'eau. Voilà. Il faudrait qu'on réfléchisse à comment toutes ces métaphores nous pèsent dans l'esprit, quoi. Donc moi, je ne crois pas que je crois pas que que l'humain soit comment dire, fait pour vivre dans l'eau. Donc l'immersion, non. Voilà. Au fond, je crois que je suis travaillé par ce doute-là, la demeure de l'humanité. C'est pas la société. La société, c'est un pôle de l'existence humaine. Donc, il faut qu'on se remette. Il me semble qu'il faut qu'on se remette à penser la sortie de la vie sociale. Et je sais que c'est très très douloureux parce que évidemment, enfin, évidemment, le lien historique, foncier entre le social et l'économique fait que l'économie se tient dans le social. Voilà. Donc si on, c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que la question, c'est il faut que ça redémarre comme avant, que la société qui est un petit peu en retrait ces temps-ci retrouve toute son importance parce que économiquement, bon, voilà, ben, n'empêche que peut-être. Il faut continuer à penser à des instances d'existence humaine qui ne sont pas, à proprement parler, sociales. Ça résout pas, ça donne pas de solution pour demain, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Alors, quels objets j'essaye de proposer, si tu veux, ce soir, peut-être il faudra reprendre ça calmement, quoi. Mais disons des objets, essayons de penser des objets. Alors, d'abord, peut-être essayer de penser tout ça avec plus de. C'est le sens de l'allusion à Nietzsche que j'ai faite à la fin de la petite conférence de ce soir. De penser tout ça dans un esprit, est-ce qu'on peut, léger, ironique, désinvolte, etc. C'est-à-dire, pas en rajouter sur la lourdeur. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, moi je dis beaucoup ça ces temps-ci, des petites choses qu'on peut faire, des choses pas lourdes. Voilà. Pas affronter comment dire, avec nos petits bras les grandes entreprises. Voilà. Est-ce que pour autant il n'y a aucune entreprise qu'on puisse envisager en notre nom? Voilà. Oui, alors, l'allusion que j'ai faite aux scientifiques et enfin la distinction entre l'esprit scientifique et l'esprit artiste, elle est contextualisée chez Nietzsche, et même chez Nietzsche, le gai savoir, bon, c'est assez précis. En fait, j'avais en tête, s'il faut concrétiser, la chose suivante, c'est que par quoi on commence? Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas ne rien faire, il faut qu'on fasse quelque chose. Par quoi on commence? Alors, peut-être les lourdes entreprises qui ont un grand impact, comme on dit, social, elles commencent avec beaucoup de science, des enquêtes, de la sociologie, etc. Bon. Sinon, on ne peut rien faire parce que. Mais peut-être on peut commencer plus légèrement, dans un esprit artiste, par dessiner une petite chose. C'est ça que moi je lis dans le texte de Nietzsche. Voilà. Et on laisse de côté la lourdeur scientifique. C'est pas que c'est rien. Il faut pas ne je mais bon, on commence pas par là. Voilà. On commence pas par là. C'est une question de méthode. Et je pense que ça parce que toi évidemment ça va t'intéresser. Je pense que ça concerne beaucoup l'histoire du design, qu'il y a une inflexion dans l'idée de design. Et dans l'histoire de l'idée et la pratique du design, qui aura été liée à l'irruption justement des sciences environnementales lourdes, la sociologie, etc., dans le point de départ de l'entreprise appelée design. Alors que à l'origine, dans les années 20, c'est pas par là qu'il commence. Il commence par par des petits tracés, par des petits essais, etc. Oui, je suis d'accord.
Tu parles bien? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je l'arrête. J'arrête.